Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Babette Mombasa-Mambo.
Madame, messieurs, bonjour. Des réactions fusent après l'attaque au drone qui a fait 3 morts hier à Goma. Tous condamnent et appellent à identifier les auteurs pour qu'ils répondent de leurs actes. Les réactions vont aussi dans le sens d'une désescalade. Nous vous proposons dans ce journal celle du gouvernement central ainsi que de la MONUSCO et de l'UNICEF. Ces derniers ont perdu chacun un membre dans cette attaque. Dans l'actualité aussi, cette controverse autour des taxes à percevoir des fins mars dans le secteur des jeux d'argent, c'est notamment celle d'autorisation d'exploitation pour les opérateurs et celle sur les gains réalisés par les joueurs. Si certains soutiennent la démarche de l'État, d'autres estiment que c'est une tracasserie qui risque de décourager ces entrepreneurs. L'attaque au drone dans la ville de Goma, il en a aussi été question hier dans Dialogue entre Congolais. Dans ce journal, les réactions des intervenants. Bienvenue à cette édition du journal. Attaque au drone hier à Goma. L'heure est à présent aux réactions. Nous vous proposons d'abord celle de la MONUSCO. La mission onusienne condamne avec force l'attaque du drone menée hier mercredi matin à Goma dans le Nord Kivu. Une attaque meurtrière qui a coûté la vie à un membre de son personnel ainsi qu'à 2 civils et provoqué des dégâts sur des habitations. Dans un communiqué publié hier mercredi, le chef par intérim de la mission, Bruno Lemarquis, parle d'une escalade de violence profondément préoccupante. Il rappelle que les attaques contre les Nations Unies pourraient constituer des crimes de guerre. Ainsi, il appelle à faire toute la lumière sur cet incident et à mettre fin immédiatement aux violences. Que retenir d'autre de son message, Olivier Vinbuinga?
La MONUSCO dénonce une nouvelle escalade de violence à Goma. Une attaque menée à l'aide de drones a causé la mort d'un membre du personnel des Nations Unies et de 2 civils et en plus endommagé plusieurs habitations. Dans un communiqué, le chef par intérim de la mission, Bruno Lemarquis, condamne avec la plus grande fermeté l'usage d'armes et de drones d'attaque qui mettent en danger les populations civiles et le personnel des Nations Unies. Il décrit cette montée de violence comme profondément préoccupante. Bruno Lemarquis présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et salue, je cite, « le dévouement et le professionnalisme du personnel des Nations Unies au service du peuple congolais ». Il exprime également sa solidarité envers toutes les personnes touchées par cet acte. Il rappelle que les attaques visant le personnel de l'ONU pourraient constituer des crimes de guerre conformément au statut de Rome et demande que toute la lumière soit faite sur cet incident. Il insiste sur la nécessité d'une enquête rapide, indépendante et crédible pour identifier les responsables et les traduire en justice. Bruno Lemarquis appelle enfin toutes les parties à cesser immédiatement les violences conformément à leur engagement de respecter le cessez-le-feu, à privilégier la voie de la solution politique et le dialogue afin de protéger les populations civiles et à capitaliser sur les gains récemment obtenus dans le cadre des efforts de paix.
Et puis vous le savez déjà, une des victimes de cet incident est un membre du personnel de l'UNICEF. Dans une déclaration publiée hier mercredi, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance note exactement ceci. Nous sommes à l'UNICEF profondément bouleversés et indignés par le décès de notre collègue Karine Nobusset, tuée lors d'une attaque de drone sur un bâtiment abritant des travailleurs humanitaires à Goma. L'UNICEF souligne également que Karine était une humanitaire dévouée qui travaillait sans relâche pour venir en aide aux enfants ainsi qu'aux familles touchées par les conflits et les crises. Nos pensées à sa famille, ses amis et ses collègues. En cette période extrêmement difficile, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance indique enfin continuer de recueillir des informations supplémentaires sur cet événement tragique qui rappelle à quel point la protection des acteurs humanitaires est essentielle en toutes circonstances. Je vous rappelle que l'UNICEF œuvre à la protection des droits de l'enfant, en particulier ceux de plus défavorisés et des plus difficiles à atteindre. Toujours dans les chapitres des réactions, le gouvernement congolais réaffirme son engagement à collaborer avec l'ONU et l'ensemble de ses partenaires pour établir les faits. Dans un communiqué parvenu hier mercredi à Radio Kapi, l'exécutif national indique avoir pris connaissance des explosions ayant causé des pertes en vies humaines ainsi que d'importants dégâts matériels dans cette ville sous occupation rebelle. Le gouvernement exprime sa profonde tristesse à la suite des pertes en vies humaines rapportées, notamment le décès de Karine Busset, ressortissante française et employée de l'UNICEF en RDC. Il présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, au gouvernement français, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté humanitaire. Revenons à présent sur ce qui s'est passé hier mercredi matin à Goma. En tout cas, cette ville s'est réveillée sous le choc d'une attaque ciblée de drones kamikazes. Ces bombardements ont principalement frappé une résidence privée au quartier Katindo, touchant aussi des habitations voisines. Cette attaque est la première à toucher directement un quartier non périphérique de la ville de Goma depuis la fin des combats de l'année dernière lorsque la ville est passée sous contrôle de l'FCM-23. Sur place, les habitants contactés condamnent fermement cette escalade de la violence observée depuis quelques semaines dans la province. Ils appellent au règlement du conflit par la diplomatie. Retour sur les faits avec vous, Alain Rung.
C'est aux environs de 4 heures du matin que ces explosions ont été enregistrées. Si certains voisins du lieu touché disent n'avoir rien entendu, d'autres affirment avoir clairement perçu le bruit de l'attaque. Sur place, les débris témoignent de la violence de l'impact. Jusqu'à présent, il est encore difficile d'établir avec certitude l'origine de ces frappes. Les habitants de Goma rencontrés ce matin à travers la ville espèrent qu'une enquête indépendante pourra établir les responsabilités. En attendant, la vie suit son cours. Les activités sont normales dans la ville, les écoles ont ouvert leurs portes, la circulation est fluide et les commerces tournent. Devant une école primaire du quartier Imbi, des parents rencontrés ce matin expliquent qu'ils n'ont pas informé leurs enfants du drame pour ne pas les perturber en cette période d'examen. Pour eux, il est impératif que les acteurs impliqués fassent de leur mieux pour ne pas imposer à la population le traumatisme d'une nouvelle guerre urbaine. Dans une ville où l'on tente simplement de survivre, nous n'avons pas besoin du bruit des armes, a lâché une maman qui venait de déposer son enfant avant de rejoindre le quartier Biréré où elle tient une pharmacie.
Merci Alain. Du côté de Beni cette fois, c'est un incendie qui a ravagé toujours hier mercredi la salle d'attente et le bureau administratif de la régie de voies aériennes à l'aéroport de Mavivi. D'autres bâtiments de service de cette ville du Nord Kivu ont également été endommagés par le feu. La MONUSCO est rapidement intervenue en déployant ses véhicules anti-incendie pour maîtriser les flammes. Explication avec Martial Papimukeba.
Selon des témoins, les faits seraient partis de la cuisine d'un restaurant situé dans les bâtiments abritant la salle d'attente, les bureaux de la RVA et d'autres services aéroportuaires. Construit entièrement en planche, il y a une dizaine d'années, le bâtiment a rapidement pris feu, facilitant la propagation des flammes et rendant l'intervention des pompiers particulièrement difficile. D'après Abdourahmane Ganda, chef de bureau de la MONUSCO à Beni, les équipes de la mission onusienne ont travaillé de concert avec les services du gouvernement congolais en fait d'empêcher la propagation du feu vers d'autres installations sensibles de l'aéroport.
Tout le monde s'est mis à peu d'heure. J'en profite pour saluer la collaboration des FARDC, de la PNC, des autorités de l'aéroport. On a pu maîtriser, on a sauvé ce qui a sauvé. Malheureusement, la nature des matériaux de construction du bois a fait que rien n'est resté, mais il n'y a pas de perte en vie humaine. On a protégé les aéronefs qui sont là, on a protégé le dépôt de carburant.
Les trafics aériens s'est toutefois poursuivi à l'aéroport de Mavivi, mais la vérification des passagers et le contrôle des bagages se font désormais en plein air dans un aéroport qui disposait déjà d'installations limitées. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Nous sommes dans la province du Lualaba. Un éboulement a causé la mort de plusieurs artisanaux hier mercredi dans la carrière dénommée Safi, appartenant à une entreprise minière dans la cité de Kakanda, territoire de Louboudi. Des sources locales rapportent que ce site est occupé actuellement par des exploitants clandestins. Ils travaillent dans des conditions dangereuses sans aucune mesure de sécurité. Pour le moment, les circonstances de cet éboulement ne sont pas connues. Nous allons revenir sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Autre nouvelle, la décision du gouvernement obligeant les opérateurs de jeux d'argent à se conformer aux obligations fiscales suscite des débats dans les casinos et milieux de loterie à Kinshasa. Les tenanciers de ce jeu se montrent divisés. Certains soutiennent la démarche de l'État, tandis que d'autres la qualifient de tracasserie fiscale pure et simple qui, selon eux, risquerait de décourager les entrepreneurs de ce secteur. Blaise Ndongala les a rencontrés.
Dans un communiqué daté du 5 mars courant, les ministères des Finances rapportent que toutes les entreprises opérant dans les paris sportifs, les casinos, les loteries, les concours de pronostics et autres activités assimilées sont soumises aux dispositions fiscales applicables à ces secteurs. Ces communiqués précisent que ces opérateurs doivent s'acquitter des deux catégories de taxes, à savoir la taxe relative à l'autorisation d'exploitation d'une entreprise de jeux d'hasard et celle appliquée aux gains réalisés par les joueurs. Une décision qui désapprouve la majorité des parieurs rencontrés dans plusieurs casinos de la capitale. L'un d'eux estime que cette démarche du ministère des Finances risque de décourager les sociétés qui emploient de nombreux jeunes.
Je travaille à Winner. Je sauve ma vie sur Winner. En fait, la taxe, ça va faire la rechute. Je demanderai à l'État d'en créer encore des emplois pour les jeunes.
À l'inverse, l'un des responsables de la société Ngenge Sport pense que cette mesure permettra de renflouer les caisses de l'État en lui donnant les moyens de sa politique.
L'État vit moyennant de ses épaules et de ses taxes. Si une telle décision est prise, ce n'est pas du tout mauvaise.
Les autorités ont fixé au 31 mars 2026 la date limite pour cette mise en conformité. Passé ce délai, les contrevenants s'exposeraient aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Un atelier se tient à Kinshasa en vue cette fois d'affermir la protection des consommateurs des produits alimentaires en RDC et améliorer la compétitivité des produits made in DRC sur le marché international. C'est l'objectif de cet atelier de renforcement des capacités des comités nationaux sur les normes sanitaires et phytosanitaires, des obstacles techniques au commerce et le Codex Alimentarius qui est le code mondial qui fixe les règles pour garantir la qualité et la sécurité des aliments. Cet atelier de 2 jours a été lancé hier mercredi à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku. Il est organisé par ce ministère en collaboration avec Trademark Africa. Selon le ministre, le respect des normes sanitaires et phytosanitaires est essentiel pour renforcer la confiance des consommateurs et faciliter le commerce international. Julien Paluku, au micro de Grace Amzati.
Je tiens à saluer cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique du gouvernement de la République à consolider les capacités techniques et institutionnelles nécessaires à la mise en œuvre effective des engagements commerciaux de notre pays, notamment dans le cadre des différents accords de l'OMC, notamment l'accord sur la facilitation des échanges. Elle vient en complément des avancées majeures enregistrées au niveau mondial à l'issue d'un accord que la RDC a ratifié en juillet 2025, c'est l'accord sur les subventions à la pêche. Alors, dans un contexte, comme je le disais tout à l'heure, dominé par plusieurs crises et une mondialisation croissante, eh bien, les normes sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce jouent un rôle déterminant dans la régulation du commerce international. Elles visent non seulement à protéger la santé des consommateurs, des faunes et des flores, mais également à garantir la qualité et la sécurité des produits circulant sur les marchés internationaux et même les marchés nationaux.
Pour sa part, Gladys Kalumbola, responsable du programme de Trademark Africa RDC, explique que cette formation vise à aider la RDC à mieux s'intégrer dans le commerce multilatéral et à devenir un acteur plus compétitif sur les marchés internationaux. La femme toujours à l'honneur en ce mois de mars, nous allons découvrir une qui se distingue par son travail. Il s'agit de Vanessa Kaniki, femme cordonnière dans le Nord Kivu, avec son credo, sortir des sentiers battus pour devenir actrice du changement. Pour cette cordonnière établie à Goma, le développement de la RDC passe par l'audace féminine. À l'occasion de ce mois dédié à la promotion des droits des femmes, elle invite ces dernières à ne plus se contenter de reproduire l'existant, mais à oser l'innovation pour répondre aux défis du quotidien. Rosalie Zawadi l'a rencontrée en plein travail dans son atelier au quartier Imbi.
Entre les odeurs des cols et des cuirs, Vanessa Kaniki apprête ses outils de découpe pour préparer ses prochaines sandales. De bonne humeur, dans sa tenue noire de travail, elle ne cache pas sa fierté d'avoir choisi ce métier.
Quand j'arrive quelque part et que je dis voilà, je suis Vanessa Kaniki et je suis cordonnière professionnelle. Vous-même, quand vous écoutez, ça attire beaucoup plus d'attention. Et moi, je dis bon, voilà. C'est déjà ce que je gagne parce que je suis dans un domaine où si on doit chercher une subvention ou un financement et que nous sommes toutes des femmes, même si on est à 100 et qu'on doit présenter des projets, quand je vais présenter mon projet sera unique. Et pour moi, ça, c'est un grand avantage. Au début, je ne le voyais pas comme ça, mais à un moment, je me suis rendu compte que c'était très intéressant.
Si ces sandales voyageaient autrefois à travers tous les pays, la guerre a durement freiné l'élan de son entreprise. Aujourd'hui, face à la baisse des ventes, Vanessa Kaniki demande aux habitants de Goma de consommer les produits locaux pour soutenir la résilience des entrepreneurs dans la ville qui essayent de survivre malgré la crise. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Circulation à Kinshasa, la mobilité urbaine devient de plus en plus difficile entre les communes de Bumbo et Nkirinkiri dans le centre de la capitale. Plusieurs axes routiers stratégiques de cette zone connaissent une dégradation avancée, compliquant le quotidien des automobilistes et piétons. Aucun travaux de réhabilitation de route ne sont envisagés dans cette partie de la capitale. Reportage Yar Kabamba.
Sur la direction Chaba, notamment entre l'avenue Panzi et Lukula, un important nid de poules persiste depuis plusieurs années sans intervention visible des autorités de la ville. Cette situation ralentit considérablement la circulation et provoque régulièrement des embouteillages. Pour contourner ces points critiques, de nombreux usagers empruntaient habituellement l'avenue Asosa, une route alternative qui s'est fortement dégradée elle aussi. C'est notamment entre les avenues Panzi et Kwilu. Les tronçons est aujourd'hui presque impraticable et nécessite, selon certains conducteurs, l'utilisation de véhicules tout-terrain pour y circuler sans difficulté. La situation s'avère plus compliquée avec la fermeture pour travaux de plusieurs autres axes importants, notamment les avenues Gambela, Birmanie et 24 novembre. Ces voies permettaient de contourner les routes à problème. Face à cette situation, les habitants de ces communes appellent les autorités urbaines à intervenir rapidement afin de réhabiliter ces routes et rétablir une circulation fluide sur ces axes jugés stratégiques pour la mobilité dans cette partie de Kinshasa.
Actualité internationale.
En Iran, des milliers de personnes ont assisté aux funérailles des responsables tués lors des frappes israélo-américaines. L'état-major général des forces armées iraniennes a organisé hier mercredi une cérémonie funéraire en l'honneur des chefs de l'armée régulière et des gardiens de la révolution, ainsi que pour le ministre de la Défense et le chef d'état-major tués lors des frappes américaines militaires israéliennes de 8 mars. Le cortège funèbre a défilé dans la capitale Téhéran pour se diriger vers le sanctuaire des martyrs. Les récentes frappes ont visé et éliminé une partie importante de la structure de commandement militaire du pays.
L'invité.
La ville de Goma a touché hier matin vers 4h30 par deux frappes de drones dans le quartier Katindo. Ces frappes ont causé des dégâts matériels et humains selon un communiqué de la MONUSCO publié hier. Le bilan est de 3 morts, un membre des Nations Unies et 2 civils. Les intervenants dans l'émission Dialogue en Congolais hier ont analysé cette attaque qui intervient au moment où les appels se multiplient en faveur du respect du cessez-le-feu. On les écoute au micro de Guimaté.
Il défense Bwakianakazi, vous êtes chercheur à Ibouteli, vous êtes gestionnaire des données du baromètre sécuritaire au Kivu. L'HCM23 accuse le gouvernement de Kinshasa d'avoir lancé cette attaque, chose que Kinshasa n'a pas encore confirmée jusque-là. À votre avis, à qui pourrait profiter cette attaque dans les contextes du moment?
Alors, si on voit par exemple les indices, en voyant le développement des événements, les différentes attaques qui ont été signalées, qui sont passées dernièrement, en fait, on serait tenté, peut-être quelques indices, ça serait vraiment du côté des FNDC, qui profiteraient peut-être des effets du politique de Bouyad, par exemple, qui ne serait pas aujourd'hui étalé sur la ville de Goma et profiter de et voir comment fragiliser ou mettre peur du côté du camp opposé. Et donc, c'est ce que pour moi, je disais, je me dis, en voyant la succession des événements, on peut se tenter de dire que bon, c'est ce que les FNDC aurait plus intérêt à mettre plus de clair du côté opposé. Et à ce moment-là, peut-être que ça peut fragiliser de plus en plus la position de M23.
Johnson Ishara, Boutaragaza, vous êtes acteur engagé de la société civile du Nord Kivu, coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Vous êtes également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique, activiste pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Vous, en tant que société civile, quelle est votre compréhension de cette attaque des drones dans la ville de Goma ce matin?
Oui, monsieur Guy. Tout ce qui est en train de se passer à Goma et aux environs, je pense que c'est une zone qu'on peut appeler une zone en guerre. Et il y a des événements qui se passent et qui ne peuvent plus surprendre parce que de toutes les façons, de part et d'autre, on a des forces gouvernementales qui ne sont plus dans ces zones-là et que ceux qui sont imposent leur manière de faire. Et que l'histoire des guerres, monsieur Guy, vous devez savoir que l'histoire des guerres a comme leitmotiv la manipulation de masse, parce que toute la communication autour de ce qui se passe réellement, je vais inviter mes compatriotes à ne pas toujours se fier à ce qui s'est dit, il faut plutôt se fier à ce qui n'est pas dit. Et ce qui n'est pas dit, c'est ce qui nous intéresse. Mais il faut retenir quand même qu'un élément majeur, ce qui, de part et d'autre, on peut affirmer qu'il y a eu des drones qui ont largué des bombes sur la ville de Goma. Et encore que ces quartiers, c'est un quartier résidentiel. J'ai rappelé encore sur ce micro que même l'endroit qui a été bombardé, c'est un quartier que je maîtrise très bien. C'est une maison, une parcelle qui peut être à à 100 mètres de la résidence d'ancien président de la République qui est sénateur à vie, jusqu'à preuve du contraire, et que cette parcelle avait l'habitude de loger, de faire loger l'actuel président de la République. Quand il est de passage à Goma, c'est cette résidence-là qu'il avait l'habitude, bien entendu, parce que ça fait déjà plus d'un an qu'il ne sera pas à Goma, il avait l'habitude de prendre son repos là-bas. Alors, cela soulève, c'est comme un arbre maintenant qui cache la forêt quand on entre dans la profondeur. Mais la profondeur ici, il faut admettre que ça soit les forces armées de la République démocratique du Congo, on a des drones, qui s'assoit le 1-23 avec tous les rapports que les experts des Nations Unies ont y a publié, ils ont des drones. La bonne question était de savoir qui s'est révisé dans ces bombes qui ont été larguées.
Professeur Pierre Virgence, vous êtes politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Gaben à Butembo en RDC. Les deux parties semblent réticentes quant à ce qui concerne le respect du cessez-le-feu. Professeur, quels bénéfices les deux parties pourraient tirer, n'est-ce pas, d'une situation caractérisée par les hostilités?
Donc, je pense que c'est clair que le M23 a intérêt à continuer à utiliser les territoires qu'il utilise pour enrichir le Rwanda. Donc, c'est des minerais qui vont directement dans les mains des Rwandais. Et du côté congolais, il ne faut pas oublier, Ildefonse vient de le rappeler, il va y avoir des élections en principe en 2027.
Oui, 2028.
Et donc, ces élections, c'est clair que si le président se présente ou un candidat issu du camp présidentiel, ça dépend s'il réussit à changer la constitution ou pas, c'est un autre débat. Mais donc, si le camp présidentiel présente quelqu'un aux élections, eh bien, à ce moment-là, effectivement, ils ont intérêt à pouvoir présenter un bilan positif, c'est-à-dire que montrer qu'ils ont bien défendu la terre congolaise.
Vous pouvez suivre l'intégralité de ce numéro de dialogue entre Congolais sur www.radiookapi.net ainsi que sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Fin de ce journal préparé par Lévin Bouingami, son nom par André Mongou. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée.